Notre prochain intervenant, c'est Jean-Michel Deveza, qui est maître de conférences habilité en poste à l'Université Michel de Montaigne Bordeaux 3. Il a orienté sa recherche en trois directions, le surréalisme et les avant-gardes du 20e siècle, les littératures en français, principalement du continent africain, de la Caraïbe et de la Suisse, l'étude de la littérature de l'extrême contemporain en français, d'une part en examinant comment le travail des formes peut ou non se rapporter au réel et à la réalité, et d'autre part, en s'intéressant aux représentations littéraires et artistiques du corps, de la chair, des sexualités et de l'intime, d'où, je suppose, votre présence ici aujourd'hui. Le titre de sa communication, « Le crépuscule des ogres, le corps contraint chez Régis Geoffray », une lecture de Sévère et de Clostria.
Merci Martine. Je voudrais juste remercier, avant de présenter ma communication, remercier Samuel Archibald et Audrey Villemy de m'avoir invité à ces travaux. Je dois dire que je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et j'espère que cela nous donnera l'occasion demain de tisser des liens de travail, de collaboration entre l'UQAM et Bordeaux 3. Je dois dire que ce n'est pas la première fois que je viens à Montréal dans les 10 années écoulées. Je suis ici avec une certaine émotion et je voudrais tout simplement, la dernière fois que j'étais présent, c'était en 2009, je voudrais avoir une pensée pour Nelly Arcand, qui, en 2006, avait été parmi les 2 ou 3 écrivains et écrivaines qui avaient eu l'amitié de lire mon premier manuscrit de littérature. Bien, le crépuscule des ogres. Lorsque les organisateurs de ce colloque, ayant trait aux représentations littéraires du corps brutalisé, ont pris attache avec moi pour me proposer d'y participer, je leur ai annoncé que j'examinerai brièvement 2 livres récents de Régis et Geoffray. Sévère, sorti en 2010, et Clostria, publié en 2012. Ces livres renvoient à des faits divers qui ont défrayé la chronique en France, en Suisse et en Autriche, même si, en ouverture de chacun de ces ouvrages, l'écrivain se défend d'avoir écrit un document et en appelle chaque fois aux ressources de la fiction et de l'imagination. L'univers diégétique de Sévère fait en effet penser à l'assassinat le 28 février 2005 à Genève du banquier français Édouard Stern par sa maîtresse Cécile Brossard, avec laquelle il entretenait une relation sadomasochiste vénale. Clostria fait écho à l'affaire Josef Fritzl, qui a éclaté à Amstetten le 26 avril 2008, quand, à la suite d'une enquête des services sociaux, Elisabeth Fritzl a été libérée des griffes de son père et que celle-ci a déclaré avoir été victime de l'inceste et retenue dans la cave du domicile familial pendant 24 ans. Elle y a accouché dans cette cave de 7 enfants, dont 1 n'a pas survécu, 3 ont été adoptés par le père incestueux et son épouse au lendemain de leur supposé abandon par leur mère, Fritzl prétendant que celle-ci, la mère donc, Angelica dans le roman, vivait au sein d'une secte, tandis que les 3 autres enfants ont partagé les conditions d'enfermement et de claustration de leur génitrice. La découverte en 2008 de l'incroyable forfait de Josef Fritzl a suscité une grande émotion. Elle est survenue 2 ans à peine après l'évasion, le 23 août 2006, de Natacha Kampusch du sous-sol d'une habitation de Kessendorf, où son ravisseur, Wolfgang Prick-Kloppl, la détenait depuis son enlèvement à Vienne le 2 mars 1998. Les autorités autrichiennes et une fraction significative de la population ont réagi vivement aux commentaires qui, selon elle, interprétaient abusivement ces crimes comme une résurgence dans l'actualité du passé nazi refoulé du pays et de sa faculté à s'accommoder du cours général du monde. C'est sans doute la raison pour laquelle la réception de Clostria y a été contrastée aux grandes dames de Régis Geoffray. Certaines de ses formulations, assimilant la cave de Josef Fritzl, je cite, à une poche de cauchemar sous la terre autrichienne. Certaines de ses observations, notant par exemple, je cite, que le monde entier était braqué sur l'Autriche, accusé d'abriter encore dans son sous-sol des poches de nazisme, ces observations et ces formulations étaient de nature à choquer, tout comme le rapprochement effectué entre le sous-sol de Fritzl et le camp de Mauthausen. L'écrivain, quant à lui, s'est plaint d'avoir été vilipendé avant même que son texte fût traduit en allemand. Il a très certainement heurté une portion de ses lecteurs autrichiens, effectifs ou potentiels, en profitant de la promotion de son livre pour mener une campagne en faveur d'une révision de la législation de leur pays en matière d'inceste, lequel n'y est sanctionné que par une peine maximale de 3 ans de prison, alors que les sanctions encourues pour des crimes d'une moindre gravité sont parfois plus lourdes. À plusieurs reprises, et d'abord dans son texte, il a suggéré qu'en plus d'un climat propice aux violences contre les femmes et les enfants et d'une inclination de la société autrichienne à protéger ses criminels, qu'ils soient anciens nazis ou citoyens sans obédience, Fritzl avait bénéficié de complaisance. Geoffrey écrit « Si, comme dans l'enfer de Dante, il y avait plusieurs cercles dans la cave, tout le monde a préféré s'abstenir de les visiter tous. » Dans ces conditions, vous me l'accorderez, la polémique était inévitable. Pour ma part, je crois préférable d'appréhender ces livres au prisme d'une sortie non seulement annoncée, mais déjà engagée du patriarcat. Je songe ici aux thèses soutenues en avril 2013 par Jacques-Alain Miller au théâtre Daniel Sorano à Toulouse, lorsque Christine Angot y a accueilli plusieurs de ses amis pour une série de rencontres, de débats et de lectures autour de son œuvre. Ces thèses ont été reprises par le psychanalyste dans sa présentation du livre 6 du séminaire de Jacques Lacan, Le désir et son interprétation, publié en juin de cette année. Lors de sa conférence toulousaine, Jacques-Alain Miller a considéré que nous ne pouvons plus douter de la réalité de cette extinction programmée, prenant comme exemple le roman de Christine Angot, Une semaine de vacances, qu'il convient selon lui de déchiffrer comme le roman de la perversion, je reprends la formule de Lacan, c'est-à-dire le roman de la version vers le père, de la pente qui nous dirige vers le père, le tropisme qui nous met sous la férule du père et qui, là, est le phallus érigé du père. J'organiserai ma lecture de Sévère et de Klaus Tria à partir de cette problématique. Les personnages d'Edouard Stern, le redoutable financier, et de Joseph Fritzl, le père apparemment tranquille, se rêvant patriarche omnipotent d'une famille entièrement sous son emprise et sous sa coupe, ce dernier, Fritzl, l'emportant indiscutablement dans l'horreur et l'innommable sur Edouard Stern, ces deux personnages actualisent l'un et l'autre, selon moi, la figure de l'ogre, c'est-à-dire l'image emblématique du patriarcat. Son inscription dans les univers diégétiques des deux romans en signale, en dépit de certaines ambivalences, non pas le persistant le triomphe ni l'inquiétant retour, mais le statut crépusculaire. Dans la production littéraire de Régis Geoffrey, Sévère et Klaus Tria correspondent à un infléchissement de son écriture amorcé avant la rédaction de Lacrimosa en 2008 en direction d'un non-fiction novel à la française, remis à la mode par Emmanuel Carrère en 2000 avec L'Adversaire. Cependant, à la réflexion, je veux dire, après avoir travaillé ces deux livres en vue de nos débats, il m'apparaît que ces deux romans de Geoffrey n'ont pas la même portée. D'une part, leurs économies scripturaires sont assez éloignées l'une de l'autre. L'efficacité stylistique de Sévère repose sur une expression directe où prédominent les phrases simples et la juxtaposition. Celle de Klaus Tria implique un recours plus systématique à la subordination, comme si la relative complexité syntaxique des énoncés mimait celle des sombres dessins de Fritzl. D'autre part, dans l'évocation des rapports dans lesquels sont pris les protagonistes de ces deux récits, Sévère s'accommode d'un degré d'ambiguïté, peut-être inhérent au type de sexualité mise en scène, et ce degré d'ambiguïté est supérieur à celui qui, dans Klaus Tria, affecte la relation d'Angelica, la fille martyrisée, à son père. Le caractère exceptionnel des actes criminels commis dans la réalité par Joseph Fritzl a incité Geoffrey à retarder le plus possible l'écriture de son roman. Il a déclaré « J'ai reculé l'écriture du livre autant que j'ai pu ». L'épigraphe sur laquelle s'ouvre Klaus Tria, empruntée à Isaac Bashevis Singer, suggère une part d'effroi chez l'écrivain. Il n'est pas impossible que la rédaction de Sévère lui ait fourni les moyens d'une diversion, voire d'une distraction. Qui plus est, il est à relever que Geoffrey a structuré son roman en repoussant de plus de 200 pages le début de la narration de l'incarcération d'Angelica par Fritzl, comme si le récit de cette abomination constituait pour lui une épreuve des plus pénibles. Cela étant, puisque dans Klaus Tria, les questions de la domination dans les sphères de l'intime, du privé et du social, les questions de la domination et de la prostitution sont articulées à celles du viol et de l'inceste, deux des points névralgiques qui permettent de saisir comment et en quoi le patriarcat opprime les sujets et les corps. Les analyses qui vont suivre sont principalement adossées à ce texte et seulement de manière ponctuelle à Sévère, qui est sollicité en quelque sorte en renfort à mon argumentation. Le corps à disposition. Le bourreau de Claustria, Josef Fritzl, est un petit homme ennuyeux et gris qui se fondait dans la foule des braves gens et des salauds ordinaires dont chacun contribue à grossir la cohorte. Celui de Sévère est davantage un dépravé. Fritzl a été un enfant maltraité. Annette, sa mère, le rudoyait. Sous le nazisme, quoique arienne, son franc-parler lui a valu deux séjours en camp, le premier de 6 mois dans un des 50 camps annexes de Mauthausen, le second au camp principal de Mauthausen-Gusen. Elle a survécu parce qu'elle y a été capot. Quand elle en revient en mars 1943, elle retrouve son fils, je cite, comme un paquet affectueux qui essaie de lui sauter le cou et dont elle se libère d'une mornifle. Malgré ses violences, ou à cause d'elle, celui-ci, l'enfant, éprouve une attirance incestueuse pour Annette. Bien plus tard, en 2008, au deuxième jour de sa détention, Fritzl, interrogé par les policiers, se demande si, en définitive, il n'a pas eu une relation avec elle. Pendant les 24 années où il a maintenu sa fille Angelika en son pouvoir, il est probable qu'il a aimé cette femme qui poussait en elle, cette Annette peu à peu retrouvée. Quoi qu'il en soit, après la naissance de son second fils, il a reproduit les actes de maltraitance qu'il avait subis et les a reportés sur les femmes. Ainsi, 21 ans durant, il enferme d'abord sa propre mère, Annette, sous les combles de la maison où il a passé son enfance et dans laquelle il s'est réinstallé avec son épouse, Anne-Lise. Il agresse, viole et assassine plusieurs jeunes femmes de la région. Il impose l'inceste à Angelika. Puis, il la retranche de la société en l'incarcérant au sous-sol de son domicile qu'il a aménagé en abri anti-atomique. Elle y demeure 24 ans avec une partie de la progéniture que Fritzl a eue avec elle. Pour Josef Fritzl, une femme est nécessairement une putain. Tout au long de sa vie, la narratrice de Sévère n'est pas traitée différemment. Elle a été, la narratrice de Sévère, violée à 10 ans par un lointain parent. Elle s'est résignée à cette mésaventure. C'est l'un de ses secrets. Sa mère n'en a jamais rien su. Elle a appris précocement et en quelque sorte sur le tas son métier de femme. Aux yeux du banquier, dont elle est devenue la secrétaire sexuelle et qui, comme Fritzl, est un prédateur, une femme n'est jamais fiable. Elle ne peut être que dissimulatrice et menteuse. La seule ressource dont elle dispose et d'user de son corps comme d'un instrument de plaisir et d'essayer d'en tirer parti en usant de ses charmes comme d'une arme et en distinguant systématiquement ce qui est de l'ordre du physique et de la transaction, de ce qui relève de la personne et du sentiment. Lors de son procès, elle essuie les railleries du tribunal et de la salle quand elle affirme n'avoir pas trompé sa victime en réponse à une question ayant trait à sa fidélité. Pour la plupart des hommes, de Sévère et de Claustria, ce qui régit les relations des femmes et des hommes, c'est un principe de prostitution généralisée. Deuxième mouvement, le prédateur et sa proie. Si les femmes ne sont que des prostituées, la cité tout entière est un grand bordel. C'est le point de vue de Fritzl, lequel entend s'y servir la nuit venue sans avoir même à payer le prix de la passe. Il verse dans l'apologie et la pratique du viol qui lui procure une jouissance inégalée. Mais que fait-il d'autre avec son épouse Anne-Lise, si ce n'est la violer, lui appliquant, comme aux autres femmes qui tombent sous son emprise, la méthode qu'il a contractée dans son adolescence en assistant lui-même à un viol collectif. Dans le droit fil de la guerre des sexes, qui nous lance les uns contre les autres et nous oppose, le viol constitue la forme outrancière d'un rapport sexuel qui n'est jamais une relation. Il exhibe, le viol, le socle de criminalité sur lequel s'enracine le désir humain, lequel véhicule toujours une part de fascination pour l'inhumain, à travers le nombre et la répétition notamment. De plus, le fantasme de la défloration des filles par les pères et ou de leur viol répandu sur tous les continents, est inhérent à la croyance d'une suprématie des hommes sur les femmes et à la domination sociale qu'elle instaure, réservant aux premiers le contrôle de la circulation des secondes dans les sphères privées et publiques. Comprendre la signification de l'inceste suppose donc de saisir pourquoi les hommes sont des ogres pour les femmes. Les agissements de Fritzl correspondent à la vision de la plupart des hommes qu'ils croisent. En prison, après l'agression d'une femme à Linz, Fritzl est conforté dans ses convictions par le pasteur avec lequel il partage sa cellule. Même s'il ne l'a pas violée, l'infirmier dont Anne-Lise a été la maîtresse a eu avec elle un comportement sexuel analogue. Fritzl bénéficie de la solidarité des mâles. Je cite le roman. Personne à Amstetten ne lui a tenu rigueur des viols qu'il avait commis. Parfois même, il surprenait une étincelle d'admiration dans les yeux de certains hommes, eux dont les espoirs se réduisaient à forcer leur épouse les soirs de beuverie quand ils rentraient prêts à vomir. Fin de citation. Dans ses vers, il arrive au banquier d'être tout aussi expéditif que Fritzl ou l'infirmier dans l'étreinte. Fritzl et le banquier ignorent le plaisir de l'autre parce qu'ils n'ont pas de partenaire. À aucune femme, ils ne reconnaissent ce statut. Tous leurs efforts visent à intégrer celles sur lesquelles ils ont jeté leur dévolu à leur désir mortifère et à les phagocyter en raison de la toute-puissance qu'ils exercent contre elles. Du fait de leur réification, celles-ci ne sont que des proies, des chairs pantelantes et sanguinolentes ou des cadavres, tandis que le prédateur est seul dans tout l'espace qu'il a investi de son fantasme, lequel est tramé par la pulsion de mort, car à travers la femme, c'est un retour définitif à la mère qui est attendu. Dernier mouvement, le dernier cercle de l'enfer, le bonheur et la culpabilité. Dans sa prison, le petit peuple de la cave souffre du froid, de l'humidité et des infiltrations d'eau quand il pleut, d'une chaleur suffocante en été, de l'obscurité bien sûr, de la soif quand Fritzl coupe l'électricité et l'eau pour les punir, et aussi de la faim. Il croupit ce petit peuple dans une odeur de terrier. À leur libération, chacun des membres de la communauté a le plus grand mal à supporter un espace sans commune mesure avec celui où ils ont été confinés si longtemps. Ils ont tous une tête hallucinée. Il leur faut porter des lunettes noires, rendues étanches par un bourrelet de caoutchouc. Ils se déplacent à quatre pattes. Ils se tiennent souvent accroupis, exactement comme des cafards que seule l'obscurité rassure. Ils ont la peau trop blanche et des espèces de taches brunes dégoûtantes. L'excès pondéral résultant d'une extrême sédentarité leur rend inconfortable la position verticale. Déposée à l'hôpital par Fritzl, l'une des enfants, Petra, ressemble à une enfant africaine en butte à la disette ou à une rescapée d'un camp de la mort. Un mois plus tard, elle n'est encore qu'une ombre. Elle ne communique que dans un idiome, une infralangue, formée de mots en vrac, crachotés d'un raclement de gorge, des petits cailloux de langage, des fragments, syllabes inversées, mélangées, des petits dés jetés au hasard, sans verbe ni prédicat. Dans la fiction, imaginée par Régis Geoffrey, seul Roman, un des enfants d'Angelica, atteint les 52 ans. Tous les autres, l'air libre, les a tués lentement, comme une émanation délétère. Le paradoxe, et c'est terrible, c'est que ces êtres, à la merci de leur père tyrannique, ont connu le bonheur, malgré leur asservissement, malgré le viol et l'inceste. C'est précisément sur ce point que les propos des livres de Régis Geoffrey se séparent de celui de Christine Ongot, laquelle récuse toute éventualité, toute possibilité de bonheur dans l'esclavage. Ma formule de bonheur dans l'esclavage fait référence directe à la formulation de Jean Paulhan dans la préface à Histoire d'eau de Pauline Réage. Dans Claustria, Angelica et ses enfants font corps avec la cave dans laquelle Fritzl les a bouclés. Une fois libres, Angelica et Roman s'en souviennent avec une émotion trouble. L'amour de Roman pour Fritzl n'est guère discutable. Leur séparation a été une douleur. Ses regrets, ceux de Roman, vont, je cite, à un père aimé dont on l'a spolié. Un vif sentiment de culpabilité le submerge lorsqu'il se remémore ce problématique passé. Je le cite brièvement. Il se sentait coupable d'avoir été si heureux dans la cave. Il se sentait coupable d'aimer son père aussi. À chaque rétrospection, Angelica s'empêtre tout autant dans cette ambiguïté. L'instance narrative en profite pour interroger la légitimité morale de cet attachement, prêtant au personnage de Gretel, l'avocat de Fritzl, des conclusions qui équivalent à partager entre le père et la fille les responsabilités dans ce qui est advenu. Dans ces vers, la narratrice exprime un même acquiescement à la brutalité et à l'insupportable. Elle avoue avoir nourri sa passion pour le banquier de son intransigeance et de son caractère inflexible. Ce goujat, dit-elle, ne faiblissait pas. Son plus cher désir eût été d'être choisi par lui comme sa soumise absolue. Elle espérait parvenir à le tenir sous son contrôle. Dans le texte, il est écrit par les couilles, alors que jusqu'à sa mort, il l'aura toujours, lui, contrainte à obéir. Sa tentative pour renverser le rapport de domination aura été vaine. Alors, deux mots en guise de conclusion. Le voyage d'hiver du patriarcat. La famille patriarcale, cellule de base de la société, se réduit à la dimension d'une atroce geôle, actualisant le mythe de la caverne de Platon. À l'intérieur, on y discerne que l'ombre portée du réel et de la réalité, se découpant non pas sur les parois carcérales par l'action d'un foyer incandescent allumé à son entrée, mais cette ombre qui se découpe, elle se découpe sur l'écran d'une télévision. Ainsi, Fritzl a rêvé, je cite Geoffrey, d'un camp privé dont Angelica serait la seule prisonnière et lui, le capot, le SS et le Führer. Il a voulu fonder une famille qui soit entièrement et monstrueusement la sienne pour régner sur elle en monarque absolu. Fritzl a conçu le pays minuscule et clos du peuple de la cave en un temps, et c'est le paradoxe, où la famille traditionnelle est à l'agonie. Il s'est efforcé de dessiner ce petit camp comme un bordel privé dont Angelica était la seule putain. Et pour préserver son œuvre des influences morbides et déliquescentes d'un corps social, selon lui, anémié, il a abrité son arche de Noé des menaces de l'extérieur en l'enterrant sous terre, ce qui était une manière de l'enraciner dans son fantasme à lui. Ce faisant, il a en quelque sorte écrit un conte de fées qui ressemblait aux images de la télé. Ce que ce sauveur des familles ignorait, c'est que dans la chair des siens, il relatait le voyage d'hiver du patriarcat. Je vous remercie.